Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais continuer l'émission de la semaine dernière qui était consacrée à la ville du quart d'heure. Comme vous l'avez compris, je ne suis pas du tout un fanatique de cette proposition et l'émission précédente était critique, mais je voulais la développer et ne pas vous laisser sur la fin d'une pensée uniquement critique et qui oublie de faire des propositions. Donc j'avais esquissé ma vision des choses, mais je vais aujourd'hui essayer d'être un peu plus explicite et plus complet sur ce qu'on peut appeler l'accroissement, le développement urbain, en tout cas les modifications de la ville. En premier lieu, ce que je voudrais dire, c'est que la ville ne s'invente pas par des urbanistes ou des architectes. Les villes, elles sont la conséquence d'une situation économique, sociale, assez complexe, d'un moment de civilisation. Et puis, il y a des moments où il y a des développements urbains, puis d'autres moments où il y a une plus grande dispersion village d'une autre forme. Donc il ne s'agit pas d'opposer un qui serait ce que l'entend trop souvent la civilisation à la barbarie, mais ce sont des formes qui correspondent non pas au désir de quelqu'un, mais simplement à l'ère du temps, aux grandes modifications de l'histoire. Donc la prétention de certains de dire nous allons inventer la ville de demain me paraît quelque chose d'assez ridicule, en tout cas il est pour sûr voué à l'échec. Donc simplement, je ne vais pas dire que les architectes et les urbanistes ne sont pas des gens utiles, ils donnent forme, mais ils donnent forme à ce qui est déjà dans les tuyaux de l'époque. Ils ne peuvent donner forme que au désir collectif qu'ils vont traduire, eux, d'une manière qui va être technique, savante, pourrait-on dire, avec plus ou moins de bonheur, mais en tout cas, ce ne sont pas, et heureusement dans une démocratie, mais c'est valable avec toutes les formes de gouvernement, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui va inventer la ville de demain, parce que les villes ne sont pas inventées par une personne. Donc ça, c'était un préambule qui me paraît important à mon propos. Alors, ce que je vous avais dit la semaine dernière, c'était que il n'y avait pas de plan de cette ville, mais il y avait des schémas, et notamment un schéma avec un arc de cercle, avec un quart d'heure en rayon, une sorte là de cadran, et qu'en fait c'était assez ridicule parce que le quart d'heure du cadran faisait que sur la diagonale, sur le diamètre de ce cercle, on n'était pas à un quart d'heure, mais on était à 1 heure, et que les différents mouvements de cette ville qui était la ville de quart d'heure, ben que c'était une somme de quart d'heure qui faisait des heures, et que les heures au cours d'une journée où on avait soi-disant rapproché toutes les nécessités de la vie, ben on arrivait à faire 4 heures ou 5 heures de marche à pied, ce qui était évidemment une aberration totale. Donc, on va quitter cette utopie mal ficelée pour une proposition qui est basée sur l'observation du réel pour être conforme à ce que je viens de dire à l'instant. Alors, une première réflexion préalable, ce serait de dire que notre représentation, et ça fait partie des sujets que je répète assez souvent, donc notre représentation aujourd'hui, par le développement des réseaux et par le développement de tous les moyens d'information que l'on a, de Google Maps, les schémas transcrits par Internet, par Facebook et par Google, on a perdu l'exercice qui était toujours un peu laborieux, ne serait-ce que la lecture des cartes Michelin qui sont remplacées aujourd'hui par les téléphones portables qui vous guident. Et donc, on a perdu, justement, ce travail de recherche qui des fois a été un peu laborieux, un peu difficile, et on a aujourd'hui des schémas qui ne correspondent pas à la réalité. Alors, ne serait-ce que les cartes, pour parler par exemple des cartes des villes, tout le monde pense que les villes sont une succession de cercles concentriques. Alors, c'est plus ou moins vrai, ce n'est pas faux totalement, mais en fait les développements sont souvent faits suivant des axes, et des axes qui ont été soit naturels, le long par exemple de la Seine ou le long de la Garonne, mais ça sera différent pour les ports ou des villes dans d'autres topographies. Et qu'en fait, cette vision du cercle et nous renvoie plutôt à un monde infantile, dont j'avais déjà parlé, du village infantile de Oui-Oui ou des Bisounours. Donc, on est dans, je crois, aussi Astérix et Obélix et le village gaulois, et des représentations circulaires. Et donc, à partir de cela, on a inventé, j'ai déjà parlé longuement de ça, la politique des centres-villes, où on a, encore une fois, l'image du cœur, c'est-à-dire au centre du corps, il y a le cœur, comme si c'était le cœur qui commandait le corps humain et non pas le cerveau. Et ça aussi, c'est une vision très ancienne et un peu ridicule de l'anatomie humaine. Donc, le cœur de ville, et donc c'est cette image de l'écusson, voilà, toutes ces métaphores qui ne retranscrivent pas du tout la réalité. Alors, on va prendre par exemple l'exemple de Toulouse, et de se rendre compte où sont justement les points vitaux, les nœuds où les activités diverses se font, et la place des institutions à Toulouse. Donc la question est-ce que c'est dans cette vision du Toulouse intramuros dessinée par les boulevards? Et là aussi, je vais revenir sur cette histoire de boulevard, qui est la même chose dans à peu près toutes les villes. Et ça, c'est la vertu des cartes, où on a souvent un trait rouge qui va être circulaire et qui va être exagéré sur une carte. Et quand on regarde la réalité, par exemple, à travers une photosatellite, si vous regardez Toulouse en photosatellite, vous ne voyez pas apparaître le cercle des boulevards. Parce que le cercle des boulevards, c'est pas un cercle comme une sorte de manège. C'est en fait une série de fragments avec des lieux, des points nodaux, c'est beaucoup plus complexe que cela. Donc, si on prend par exemple, on va prendre Toulouse, et on regarde où sont placées les institutions. Alors, l'axe ancien romain, mais qui a été développé et repris d'une manière un peu, on peut dire, un peu baroque au Moyen-Âge, et qui a été doublé au début du XXe siècle par la rue du Languedoc et la rue Alsace. Alors, si on va le chercher un peu plus loin, c'est-à-dire dans cet axe nord-sud, et dans ma démonstration, c'est plutôt un axe sud-nord, on va le prendre par le sud. Alors, On voit par exemple qu'au sud de la ville, mais toujours sur le territoire urbain, on a l'université Paul Sabatier, qui est quasiment d'ailleurs tout un ensemble avec non seulement l'université Paul Sabatier, mais il y a tout un ensemble de recherches et d'écoles de l'aviation. Enfin, il y a un ensemble universitaire très important, dont la superficie n'est pas loin d'être d'ailleurs celle du centre ancien. Si on monte plus haut, en continuité justement de l'université, nous avons le CHU de Rangueil, et puis en remontant, il y a l'hôtel de la région, puis à proximité, à la place de la porte Narbonnaise, qui était l'entrée de la ville, on a le palais de justice, ensuite on a les carmes, le marché, les services de l'urbanisme. En remontant plus haut, un peu décalé par rapport à cet axe, il y a la cathédrale Saint-Étienne et la préfecture. Et puis, si on remonte un peu plus haut, il y a le musée des Augustins. Il y a la chambre de commerce. Puis il y a le musée des Augustins, puis ensuite il y a donc le Capitole qui est à la fois la mairie et à la fois le théâtre. De l'autre côté de l'axe, on a le marché Victor Hugo et en continuant sur la gauche, on a de l'autre côté la fac de droit, on a bien sûr la basilique Saint-Étienne avec le musée Saint-Raymond, la gare Matabiau, l'hôtel du département, évidemment qui sont un peu décalés par rapport à l'axe, le commissariat central, et puis si on continue plus haut, ben alors là, on est sur la partie nord de la commune, on a le marché d'intérêt national, qui est le deuxième marché français après Rungis, et qui est une grande plateforme de distribution de l'alimentation et qui irrigue une zone très importante au niveau chalandise. Donc, ce que j'étais en train de dire, donc, contrairement à ce que nous représente à la fois la représentation mentale, mais aussi des cartes qui sont faussées parce qu'elles représentent des cercles successifs, on a en fait un axe nord-sud qui regroupe toutes les principales activités ainsi que les institutions. Donc, on voit ainsi que les choses ne sont pas aussi simples et elles sont justement dans cette dynamique linéaire et qui est, je pense, l'essentiel de ce que sont les villes, c'est-à-dire la possibilité à la fois sur un axe d'avoir le regroupement des institutions et des activités principales, mais aussi la possibilité d'extension, comme on a pu le voir, parce que la ville qui est uniquement un emboîtement de cercles, elle est refermée sur elle-même et elle n'a plus cette dynamique qui est nécessaire à la vie moderne. Bon, on va marquer une pause musicale et puis nous allons continuer sur ce sujet de la ville du quart d'heure, ou plutôt la critique de la ville du quart d'heure.
The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.
Nous reprenons sur la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, donc, comme je vous disais, c'est une ville qui est faite de... Elle n'est pas faite, mais enfin, elle serait supposée être un modèle parfait de bonheur et de bien-être pour l'humanité par la juxtaposition de cercles dont le rayon serait un quart d'heure de développement à pied. Donc en fait, on aurait une vision là de cercles juxtaposés. Et ce que le promoteur de cette idée appelle le polycentrisme, mais il n'est pas le seul. Donc déjà, l'idée même de polycentrisme, ça me paraît être un oxymore. C'est-à-dire, s'il y a plus de centre, s'il y a plusieurs centres, c'est qu'il n'y a pas de centre. Donc en fait, il s'agirait de faire juxtaposer des communautés les unes à côté des autres, et en appelant ça chaque fois des centres. Donc on imagine la multiplicité qu'il pourrait y avoir quand il s'agirait par exemple d'un CHU, d'un grand musée, ou ce que je disais tout à l'heure du marché d'intérêt national pour toute la région, ainsi que des institutions qui seraient dupliquées. Donc déjà, on a un petit problème, parce que je suppose que les communautés les plus riches aimeraient avoir le théâtre, et puis par contre la prison ou l'usine d'incinération serait réservée pour d'autres. Donc tout ça n'est pas très égalitaire, et ce serait plutôt la source de discrimination, et de toute façon la source de séparatisme, puisqu'en fait on ferait des communautés qui seraient les unes à côté des autres, sans lien entre elles. Donc tout ça me paraît extrêmement négatif, et surtout une vision très dangereuse d'une société qui serait un archipel, pour reprendre le titre du livre de Jérôme Fourquet, l'archipel français. Donc il faudrait plutôt combattre cela, et quand je vous parlais de ces taxes unificateurs qui va dans l'exemple que je prenais de l'université Paul Sabatier au sud jusqu'au marché d'intérêt général, où on a à la fois le cerveau et le ventre, pour reprendre des métaphores physiologiques qui plaisent tellement dans cette vision de Toulouse. Donc, pour reprendre mon propos de tout à l'heure sur cette ville qui serait donc une ville linéaire, mais qui est la réalité des développements. On les voit aujourd'hui d'une manière spontanée, d'une manière qui n'est pas planifiée, puisqu'en fait la planification, ce que veulent faire les urbanismes, c'est à l'envers de ce que veut faire l'économie. Donc quelle est la réalité? La réalité, c'est que ça se fait un peu n'importe comment, et on a des bâtiments médiocres sur un plan architectural, et on a ce que l'on voit le long de la route, par exemple, pour aller à Muret, mais on a ça à peu près sur toutes les sorties des villes, et on dit, oh mon Dieu, ces sorties des villes, elles sont très laides. Elles sont très laides parce que personne ne s'en occupe, puisque on est évidemment à regarder la couleur de la porte des bâtiments dans les soi-disant centres historiques. Donc, il y a effectivement un manque de prise, d'emprise sur la réalité, et l'économie, elle a sa logique, et simplement le rôle de l'État, le rôle des professionnels, c'est de le diriger dans le bon sens et de le faire, de l'améliorer. Ça s'est passé toujours comme cela, et aujourd'hui on est en rupture avec cette manière de faire. Donc c'est pas la peine de se désoler en disant notre époque, simplement c'est qu'il faudrait qu'on regarde comment les choses doivent se passer, parce que ce sont les manières de vivre des gens, le désir des gens, et effectivement, accroché à cela, eh bien, il y a les réalités économiques. Donc, un développement qui serait un développement clair, visible, et qu'y a-t-il de plus clair qu'une ligne droite? Et par contre, ça peut être fait d'une manière agrémentée. Alors prenons par exemple un modèle que l'on pourrait prendre, si on prenait par exemple la route de Paris aujourd'hui, qui est particulièrement laide, parce qu'il y a des bâtiments qui aujourd'hui sont anciens, délaissés, il y a effectivement un chaos architectural, mais on pourrait imaginer que ce développement soit harmonieux, et on pourrait le reprendre parce qu'il y a effectivement un grand foncier, il y a aussi des anciennes gravillères qui sont des lacs, des territoires qui sont tout à fait intéressants, et on pourrait imaginer qu'il y ait un développement harmonieux de la ville qui se fasse justement sans repenser ces unités refermées sur elles-mêmes. Et là aussi, il y a aussi ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la vision des cartes, mais il y a aussi la réglementation, et notamment ce qu'on appelle les AC, qui sont justement des entités, pas forcément circulaires, mais en tout cas, qui n'ont pas du tout la prétention d'être sur des axes, puisqu'en fait, le mode à la fois juridique, et à la fois après la traduction urbanistique et architecturale, effectivement, c'est de faire des îlots les uns à côté des autres. On a ça à Montpellier, on a ça à Toulouse, on a ça partout dans toutes les villes françaises. Donc ce n'est pas un phénomène naturel, mais c'est un phénomène qui est créé parce qu'on a une mauvaise idée à la fois de l'histoire et du développement des villes, donc c'est une première erreur, et aussi une deuxième erreur qui est effectivement, à partir de ces fantaisies historiques, on a une idée totalement fausse de la demande des gens et de la réalité de l'économie. Donc, ce qui est important dans les villes, mais c'est aussi la même chose dans les bâtiments. Alors, si on regarde les bâtiments anciens, la caractéristique des bâtiments anciens, c'est qu'ils avaient effectivement, d'une manière qui était dans l'architecture classique, mais c'est à peu près général, on avait l'entrée d'abord visible et marquée d'une manière claire. Ensuite, on avait, comme de la même manière que l'on avait une nef dans une basilique comme Saint-Cernin et avec des chapelles sur les côtés, on avait pareil dans les bâtiments importants, une hiérarchie avec une lecture simple où on n'avait pas besoin de signalétique invraisemblable. Et aujourd'hui, la plupart des bâtiments actuels n'ont pas la clarté des plans anciens. Et aujourd'hui, on a besoin de signalétique, de couleurs sur le sol et de plans que l'on donne. Par exemple, j'ai été dans des hôpitaux de Toulouse récents et c'est un labyrinthe invraisemblable. On est obligé de vous donner un plan qui est assez incompréhensible à l'entrée et il n'y a aucune hiérarchie des voies. On est dans un labyrinthe. Alors, on a ça reproduit un peu partout, et même des grandes surfaces ou des bâtiments commerciaux n'arrivent pas non plus à avoir cette clarté. Et pour les bâtiments publics, je pense aussi, c'est un véritable problème que l'on ne sache pas par où il faut entrer et qu'une fois qu'on est dedans, que l'on n'ait pas une lecture simple et hiérarchisée entre un axe central, parce que le cerveau humain se repère comme cela, avec des axes secondaires. Dans la ville, c'est quoi ? Ben, c'est une place centrale avec une avenue centrale qui va être mémorisée, visible, et puis il y a en parallèle, il y aura des rues, il y aura des boulevards, en fait, il y a des repères qui font que les villes anciennes sont facilement mémorisées et qu'une des grandes caractéristiques et les plus agréables, c'est de se repérer et de se reconnaître dans un espace qu'il soit à la fois urbain ou qu'il soit architectural. Donc, il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, on ne puisse pas reprendre d'une autre manière. Il ne s'agit pas de faire de reprendre des colonnes classiques. Ce n'est pas du tout un problème. On peut tout à fait recréer ces grandes avenues, ces grandes continuités. Mais aujourd'hui, on est dans une fragmentation. Alors évidemment, si déjà au niveau de l'urbanisme, on a cette fragmentation en opération, vous avez en plus de ça une fragmentation en projets architecturaux parce que les concours d'architecture, par exemple, j'en ai parlé récemment, c'est justement la multiplication de prouesses, entre guillemets, individuelles, où on a des bâtiments qui n'ont évidemment aucun raccord entre eux, aucune unité d'ensemble, parce qu'en fin de compte, ce qui est privilégié, c'est l'égocentrisme, c'est le « m'as-tu vu ?» et non pas une vision, on peut dire, civique, qui serait justement le propre des villes, où on a des bâtiments remarquables par leur destination, qui se montrent et s'identifient, mais après, des bâtiments de bureaux, des bâtiments de logement n'ont absolument pas à être des exploits architecturaux, et avec cet horrible mot qui est le geste architectural que personne ne demande. On demande justement des continuités visuelles, on demande une ville qui soit dans cette harmonie de continuité, ce que tout le monde reconnaît aux villes anciennes. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de réinventer des formes tellement différentes. Il suffit de regarder les qualités des villes du passé, de bien comprendre la manière dont elles se sont développées et la manière dont aujourd'hui aussi la demande de l'économie, la demande des gens est pour ce type de développement, et de le mettre en forme, d'une forme effectivement qui soit en correspondance actuelle avec les matériaux, avec l'esthétique d'aujourd'hui. Et il ne s'agit pas d'avoir une vision passéiste et de recréer des villages d'opérette. Alors, tout cela est tout à fait simple, mais faudrait-il que ce discours-là arrive sur la place publique? Et aujourd'hui, quand on parle d'architecture innovante, de quoi parle-t-on? On parle d'épaisseur d'isolation, on parle de panneaux solaires sur le toit. En fait, je suis désolé, mais dans une société, si elle est faite uniquement de l'isolation thermique, c'est-à-dire l'épaisseur de la doudoune, on est, je crois, dans la vision la plus débile de la société. Il faudrait un peu que l'on se débarrasse de la doudoune pour un peu repenser la réalité de ce qu'est la vie, les relations entre les gens, et peut-être de laisser la doudoune d'isolation au vestiaire. En tout cas, non pas que les doudounes et l'isolation soient quelque chose qui n'a pas d'usage et qui n'est pas nécessaire. Mais je veux dire, il faut, encore une fois, si on hiérarchise l'espace, ben il faudrait aussi hiérarchiser les différentes nécessités des humains et des sociétés humaines. Voilà, donc à la semaine prochaine.